Radio Kapi.
Oh, Kapi.
La promotion du travail décent dans un monde en perpétuelle mutation, c'est le thème de la Fête internationale du travail ce lundi 1er mai. Dans ce journal, vous suivrez un extrait du compte-rendu du Conseil des ministres tenu vendredi dernier, où le Premier ministre a rappelé au gouvernement l'obligation de lutter contre la précarité et la discrimination des couches vulnérables. Une certaine confusion régnerait dans la cité de Kichanga au Nord Kivu, selon plusieurs sources locales. Les habitants déplorent des tirs toutes les nuits dans la cité contrôlée depuis plus de deux semaines par le contingent burundais de la force régionale sans en connaître les vrais auteurs. Et dans la nuit de samedi à hier, dimanche soir, une personne a été tuée et trois autres blessés au cours d'une incursion d'hommes armés. L'invité de ce journal, c'est Kambale Luanga Tchernozem. Il est le président provincial de l'Union nationale des travailleurs du Congo, UNTC Nord Kivu. Il fait un état de lieu du travail dans le contexte de guerre au Nord Kivu. Bonjour à tous. Au micro, Noéla Luzitu Kabambi. Vous le savez, ce 1er mai, c'est la Fête internationale du travail. Pour cette année, le thème est la promotion du travail décent dans un monde en perpétuelle mutation. À cet effet, au cours du Conseil des ministres de vendredi dernier, le Premier ministre a rappelé au gouvernement, notamment, l'obligation de lutter contre la précarité et la discrimination de couches vulnérables. On écoute un extrait du compte-rendu du Conseil des ministres lu par Patrick Muyaya, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, un extrait proposé par Alain Hirong.
Au sujet de la célébration de la Journée internationale du travail, prévue le 1er mai 2023, sous les thèmes de la promotion du travail décent dans un monde à perpétuelle mutation, le Premier ministre chef du gouvernement a, au nom de toute son équipe, souhaité une bonne fête de travail à toutes les travailleuses et tous les travailleurs congolais. Il a également rappelé les enjeux de ces secteurs et plus particulièrement l'obligation du gouvernement d'offrir aux Congolais une perspective de dignité sur leur sol en stimulant la création d'emplois et en luttant contre la précarité et la discrimination de couches vulnérables.
Les conditions de travail et de vie des travailleurs congolais laissent à désirer. Cette déclaration est du président de la Confédération démocratique du travail, CDT, et coordonnateur de l'Intersyndicale nationale du Congo. À l'occasion ce 1er mai de la Fête internationale du travail, Guy Koukou demande au gouvernement de s'investir vraiment pour le bien des travailleurs congolais et appelle tous les travailleurs congolais à passer cette journée dans la méditation à cause de l'agression dont la RDC est victime de la part du Rwanda. C'est pour être de cœur et compatir avec les compatriotes qui souffrent dans l'est du pays. Guy Koukou a été joint par Alain Hirong.
Les conditions de vie et de travail au Congo sont lamentables, déplorables. Il n'y a même pas de mots. Je ne trouve pas de mots. Je crois que nous sommes arrivés à un moment où il faudra absolument un sursaut d'orgueil. Aujourd'hui, les conditions de travail au Congo sont à déplorer. Personne n'est fier d'être travailleur au Congo. Tant les conditions de travail, la situation sociale, le niveau de salaire est trop bas. Un SMIG qui était de 5 dollars à l'époque quand nous l'avions négocié, donc de 7000 francs congolais. Aujourd'hui, avec l'inflation, tout a perdu sa valeur. Donc, c'est redevenu au niveau de 2 dollars et demi. Donc, il n'y a aucune fierté à aimer le travail au Congo. Et encore que ce n'est pas encore appliqué dans plusieurs entreprises. Et beaucoup de travailleurs sont encore sous l'esclavage. J'appelle ça l'esclavage parce qu'ils ne sont soumis à aucun contrat du travail et ils ne sont pas pris en compte par rapport à la sécurité sociale.
Au Nord Kivu, la situation sécuritaire reste confuse dans la cité de Kichanga, estiment plusieurs sources locales. Dans la nuit de samedi à hier dimanche, une personne a été tuée et trois autres blessés au cours d'une incursion d'hommes armés inconnus au centre de la cité. Et puis, selon nos sources, des tirs sont entendus quotidiennement la nuit dans cette cité contrôlée depuis plus de deux semaines par le contingent burundais de la force régionale qui observe passivement la situation, disent nos sources. Bernard Nyangi nous fait le point de la situation.
Une confusion règne ce lundi sur la vraie identité des hommes armés qui ont fait incursion à minuit de samedi à dimanche au quartier Kilalo, est de Kichanga, tuant un père de famille et blessant sa femme, ainsi que ses deux enfants qui ont été dépêchés aux soins. Une partie de nos sources pensait que Les responsables de cette attaque seraient des miliciens formés et armés par les rebelles du M23, alors que pour d'autres, ces actes seraient commis par les rebelles du M23 encore présents dans la cité de Kichanga, mais habillés en civil après un retrait annoncé de la rébellion de cette cité importante. Ces sources sont formelles. Chaque nuit des tirs sont entendus dans plusieurs coins de la cité de Kichanga. Les militaires burundais de l'EAC qui contrôlent cette zone sont accusés de ne pas agir en raison de la complexité de la situation. Très souvent, les incidents impliquent des civils armés. Une autorité coutumière de Bachali déplore l'absence de la police nationale congolaise sur le terrain, notamment à Kichanga. En attendant le redéploiement des forces de défense et de sécurité, la population ne sait plus à quel sens se vouer. Certains habitants qui ont l'audace de regagner Kichanga après l'arrivée des troupes burundaises ont rebroussé chemin vers Goma. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Et puis, cet appel au calme du gouverneur intérimaire du Maniema à propos de près de 5000 personnes arrivées à Kindu par des rotations d'avions depuis hier après-midi, Afani Idrissa Mangala affirme qu'il s'agit des nouvelles recrues de l'armée qui ont fini leur première formation dans les centres de Kitona et Kamina. Elles sont à Kindu pour continuer leur formation supplémentaire avec les instructeurs belges qui forment les commandos au Maniema. Il s'agit donc nullement des Angolais, moins encore des rebelles du M23, comme l'ont affirmé certains habitants de Kindu. Afani Idrissa Mangala est au micro de Florence Kizalunga.
Il y a un mouvement des militaires, comme vous le savez, nous avons les Belges qui forment les commandos sur terrain, et que le mouvement qui s'opère, c'est la continuité de la formation de nos recrues, de nos militaires qui ont été recrutés pour faire face aux velléités des Rwandais sous les supplétifs du M23. Et l'État congolais organise son armée, et que Kindu, c'est un centre de formation militaire. Comme vous le savez, nous avons deux centres de formation, le centre de Jericho et le centre de Lokando, et que c'est une activité de routine militaire. Le président de la République n'a aucune intention et ne peut pas être complice de la balkanisation de notre pays. Je demande à la population d'éviter cette crainte-là. Nous sommes très soucieux de notre province. Nous n'allons jamais accepter que notre province soit cédée d'une manière ou d'une autre aux Rwandais. Il n'y a plus à s'inquiéter là-dessus. C'est la suite de la formation de nos militaires qui ont été recrutés suite à la mobilisation générale du président de la République. Ce ne sont pas des M23 et moins encore des Rwandais, mais ce sont 100% militaires congolais.
Dans la province de la Tchopo, les femmes sont victimes de discrimination dans leur parti politique. Les postes de commandement ne sont réservés qu'aux hommes. C'est le résultat de l'enquête réalisée récemment par l'ONG Congo en Images. Ce résultat a été présenté ce week-end à Kisangani au cours d'une matinée de réflexion organisée par cette organisation de défense des droits humains. Plus de précisions avec Jacques Moukonkole.
Plus de 800 personnes, dont 600 femmes, issues de plus de 20 partis politiques, ont participé à cette enquête. Cette dernière a été réalisée en avril dernier. Bijou Safi Malaba, présidente de la Ligue des femmes du Parti politique Congrès national congolais, reconnaît que bien des femmes n'occupent pas de poste de responsabilité dans leur parti politique.
Si vous regardez dans la Tchopo, par exemple, il y a combien de femmes qui occupent les postes de fédéral dans des différents partis politiques. Je suis présidente de la Ligue des femmes CNC Tchopo. Pourquoi pas être fédérale? Moi, j'exprime cette volonté si je ne peux pas quand même me choisir. Ce sont les autorités morales qui nous choisissent.
Pour Copin Solusuna, coordonnateur de l'ONG Congo en Images, il faut réfléchir pour arriver à mettre fin à cet état des choses.
Comment on peut trouver des éléments, des réponses ou des pistes de solutions pour que les autorités morales puissent finalement donner la délégation de pouvoir comme la décentralisation à l'image de ce que nous vivons dans la Constitution, articles 201, 202, 221, 222, ainsi de suite. Nous voudrons maintenant que ce parallélisme se fasse également au niveau des partis politiques.
Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet Voix et leadership des femmes, un projet du Centre Carter appuyé par les Affaires mondiales Canada. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Afin de mettre fin au conflit des générations dans la province de la Mongala, le Forum provincial de l'unité intergénérationnelle initié par le Conseil provincial de la jeunesse s'est déroulé le week-end dernier à Lissala, chef-lieu de la dite province. Plusieurs thèmes ont été abordés pour un échange entre les participants venus de toutes les couches sociales. D'après José Lipango, président du Conseil provincial de la jeunesse de la Mongala, l'occasion était ainsi offerte à toutes les personnalités de prêcher non seulement les valeurs culturelles, mais également la réconciliation entre toutes les générations afin de booster le développement de la province. Le point avec Jacques-Yves Molima.
Unité, communion, le vivre ensemble, le leader et le développement sont là, entre autres, les thématiques développées au cours de ces assises. Lors de son adresse, l'évêque du diocèse de Lissala, Mgr José Bernard Licolo Bokale Etumba, a insisté sur l'unité dans la diversité.
Les diversités qui se trouvent dans notre province, soit des richesses pour nous aider à construire l'unité.
Et cette unité se caractérise par un partage équitable des ressources, a-t-il martelé.
Le partage consiste à donner à chacun selon ses besoins. Il devait en être ainsi dans notre province. Par exemple, pour les salaires, les primes, l'argent de rétrocession, trouver des solutions qui satisfassent tous et chacun.
Pour sa part, le professeur José Lusumbu a exhorté les participants à ne pas prêter flanc à la guerre de leadership.
Chacun veut se faire leader. Le vieux dit, c'est moi qui ai commencé cette affaire. Les jeunes qualifient les vieux d'étoiles éteintes. C'est nous qui devons être réellement les leaders. Et c'est seulement autour de ces concepts-là qu'il y a des guerres. Il y a des divisions.
Notons que ces échanges se sont déroulés en présence du vice-gouverneur et d'autres autorités politico-administratives de la province.
Retour au Maniema. Les élèves filles du complexe scolaire Mapon ont assisté samedi dernier les détenus mineurs de la prison centrale de Kindu. Cette assistance en vivre et non vivre a été saluée par les bénéficiaires et le directeur de cette prison, Florence Kizalunga.
Cette assistance de filles du complexe scolaire Mapon de toutes les promotions confondues a été constituée de riz, viande, savon, biscuits, bonbons, un bassin des oranges pour ne citer que ça. L'une d'elles, Ramazani Riziki Ashura, de la troisième année scientifique, donne l'essence de cette assistance.
Nous nous inspirons aussi de l'adage anglais qui dit, nous citons, ce n'est pas la main qui donne, mais c'est le cœur. Nous vous disons que nous n'avons rien apporté de spécial. Mais les petits gestes que nous faisons envers vous, nos frères et sœurs, témoignent combien de fois nous pensons et vous portons dans nos cœurs. La prison n'est pas la fin du monde. Soyez-en rassurés. Et nous avons la ferme conviction qu'un jour, vous allez retrouver votre liberté. Puisse Dieu vous bénir.
Ce geste n'a pas laissé indifférent le directeur de cette prison, Paul Ilunga.
Je remercie beaucoup toutes les filles en cravate rouge de venir visiter les enfants à la prison centrale. C'est un geste que je n'oublierai jamais, mais que je ne sois pas la première fois ou la dernière fois. Dès que vous avez des initiatives comme ça, j'aimerais venir profiter et visiter les enfants.
Signalons que ces jours, la prison centrale de Kindu héberge près de 13 mineurs. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Cap vers l'ouest du pays. Pour éviter des embouteillages dans la ville portuaire de Matadi au Congo central, il faut réhabiliter la voie ferrée pour relancer aussi le trafic ferroviaire régulé entre Kinshasa et Matadi. Dominique Nkodiambete, maire de Matadi, l'a dit hier dimanche. Il indique qu'en dehors de remédier aux embouteillages, cette réhabilitation de la voie ferrée va offrir plusieurs avantages, notamment la préservation de la route nationale numéro 1 de la dégradation rapide que cause l'afflux des camions remorques. Dominique Nkodiambete est au micro de Nana Plurish Mambo.
Il n'y a pas d'autre solution pour mettre fin aux embouteillages. C'est d'abord les chemins de fer Matadi-Kinshasa. Parce que lorsqu'il y a beaucoup de conteneurs qui peuvent être évacués par la voie ferrée, il n'y aura pas de véhicules qui commenceront à venir faire des embouteillages dans la ville. Et surtout qu'encore avec les véhicules qui doivent chaque fois traverser la nationale numéro 1, ça pose un problème du délabrement de la voie principale de la nationale numéro 1. Vous savez là aussi, tout le monde n'est pas d'accord qu'on puisse réhabiliter les chemins de fer parce qu'il y a des gens qui s'enrichissent par la voie routière. Or aujourd'hui, nous en Matadi, si nous voulons être à l'aise avec les embouteillages, un, c'est la réhabilitation de cette voie-là, des chemins de fer. Au gouvernement de penser à l'ONATRAL, de penser au chemin de fer pour la réhabilitation de la voie, qui peut vraiment nous aider pour baisser les embouteillages au niveau des Matadi et les accidents. C'est la nationale numéro 1. Quand on place une barrière au niveau des poses, vous bloquez la voie pendant 8 heures de temps. Quand vous allez lâcher la barrière le soir, c'est tout Matadi qui est inaccessible, la congestion devient terrible à ce moment-là parce que nous ne sommes pas comme Kinshasa. Kinshasa, on peut bloquer de 6 heures jusqu'à 20 heures. Quand on va lâcher la barrière, Kinshasa est tellement vaste, chaque véhicule va prendre une destination et en quelques heures, vous trouvez qu'il y a tous ces véhicules-là vont se dissoudre dans Kinshasa. Mais à Matadi, quand vous levez la barrière à 22 heures, tous les véhicules vont prendre une seule direction. Il n'y a pas de direction à Matadi.
L'invité.
Ce lundi 1er mai, journée internationale du travail, notre invité c'est Kambale Luanga Tchernozem, président provincial de l'Union nationale des travailleurs du Congo, UNTC Nord-Kivu. Dans un entretien avec Denise Lukeso, il fait un état de lieu du travail dans le contexte de guerre au Nord-Kivu. Il parle également des conditions de travail. Suivez.
Monsieur Kambale Luanga Tchernozem, bonjour.
Bonjour.
Quel état des lieux du travail que vous faites au Nord-Kivu à l'occasion de la journée internationale du travail?
D'abord, je souhaite bonne fête du travail à tous les travailleurs de la province du Nord-Kivu. L'état des lieux est totalement précaire. Les tableaux sont au rouge. Ça veut dire que les entreprises qui sont là où il y a la guerre avec des rebelles ont totalement fermé. Et ça crée déjà des déplacements de ces travailleurs-là vers la ville de Goma. Et à cette fermeture a déjà l'impact négatif sur l'économie et la vie sociale des travailleurs.
Cette année, le thème retenu est promouvoir l'emploi et le travail décent dans un monde en mutation. Vous, en tant que syndicat qui protège les intérêts des travailleurs, quel sens que vous donnez à ce thème?
Quand nous parlons de mutation, il y a les virages. Le travailleur qui devrait être considéré comme capital humain avec le coût qu'il devrait présenter, il est remplacé par des machines et les travailleurs sont virés. Ça veut dire qu'une entreprise qui pouvait avoir 1000 travailleurs, on va dégraisser les travailleurs pour rester à 500. Ça veut dire que la mutation déjà fait la transformation dans le sens inverse. Ça veut dire que le nombre des ouvriers qu'on devrait avoir commence déjà à être réduit par les employeurs. Et ça pose déjà un problème. Et comment est-ce que nous devons faire? C'est dans ce système-là où vous avez vu que notre gouvernement, l'État, a essayé de lancer les programmes de l'entrepreneuriat. C'est dans ce programme-là où les gens qui seront déversés dans les entreprises peuvent se retrouver. Mais comment? Dans les programmes de l'entrepreneuriat, il faut que l'État s'engage avec des banques, des institutions financières pour donner l'appui à ces entrepreneurs-là.
Est-ce qu'on peut parler d'un travail décent pour un employé ici au Nord-Kivu dans le contexte actuel de la province?
Non, c'est difficile. C'est la période de la guerre. Dans les stratégies syndicales, c'est difficile même de négocier. Quand vous négociez avec l'employeur, il vous dit que je ne suis pas prêt, puisqu'il ne maximise plus les recettes. Et l'employé qui fait ses prestations, lui aussi, il travaille sous stress. Est-ce qu'aujourd'hui, demain, est-ce que je suis sécurisé? Est-ce que ce ne serait pas des coups de balle qui vont me faire déplacer? Vous voyez que dans ce climat, on ne peut pas parler de travail décent. Puisque même les gens passent la nuit sans manger, les salaires sont butés à l'hyperinflation totale des devises que nous avons ici. Dans la ville comme Goma, nous avons au moins 5-6 monnaies qui circulent. Et ça pose maintenant la loi des Gresham. La forte monnaie chasse les autres. Et c'est comme ça que vous trouvez que maintenant, la population est en difficulté. Et ça devient une hyperinflation terrible que même les économistes ne sont pas aujourd'hui à mesure de maîtriser.
Un principe qui dit chaque travail mérite un salaire. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui pour les employés que vous encadrez dans votre syndicat?
C'est difficile puisque aujourd'hui on fait l'essentiel. Nous sommes dans ce qu'on appelle qui gagne-gagne, qui perd-perd. Ça veut dire que les travailleurs gagnent un petit rien et ils perdent grand. L'employeur aussi, il perd un petit, mais il gagne beaucoup. La répartition n'est pas équitable et ça devient un problème. Parler de travail égal au prorata des salaires, on ne peut pas arriver à ça. Il faut qu'on rentre dans un état d'abord de la paix, de la sécurité. Mais à ce moment, c'est très difficile puisque tout le monde veut garder les acquis. Aujourd'hui, nous voulons qu'on gagne puisque nous devons faire face à cette vie difficile. Ça, c'est les employés. Les employeurs aussi protègent leurs entreprises pour que ça ne tombe pas. Vous voyez que déjà cet équilibre-là, ça devient un problème. Chacun, de ce côté, il protège ses intérêts.
Est-ce que l'employé donne aussi le meilleur de soi-même pour aider l'employeur à consolider son entreprise?
Aujourd'hui, les employeurs, pour faire face à cette situation de la protection de l'emploi, il faut qu'il y ait un salaire qui doit garantir le travailleur et qu'il soit suivi. Alors, quand il n'y a pas de suivi et l'évaluation des cotations et de tout ce que les travailleurs arrivent à faire, ça devient déjà une situation qui dérape. Le dérapage est dû au système salarial. Ça veut dire que le salaire ne satisfait pas les travailleurs. Les travailleurs, il a ce qu'on appelle une perte de pouvoir d'achat. Et pour essayer de compenser la perte de pouvoir d'argent là, il se crée des exercices. Soit il doit aller faire d'autres travaux en dehors de ce qu'il doit faire dans l'entreprise, et ça devient moins qu'il a gagné dans cette entreprise,
Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que les deux parties gagnent ou se retrouvent?
Il faut un dialogue social franc. Il faut que les employeurs réfléchissent pour les conditions de la vie que nous avons.
Amesi Kambale, Luang Tchernozem, Radio Kapi, vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, César.